Lizzy présente Néo. Livre 1, La chute du soleil de fer. De Michel Bussy. Lu par Damien Viteka. À Malou. Saison 1. L'été. Chapitre 1. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, Zizo.
Joyeux anniversaire. Zizo n'avait jamais rien entendu de plus idiot. D'ailleurs, il n'y avait pas de gâteau, pas de bougies, pas de cadeaux, juste Akan et Mordelia qui le regardaient avec un sourire inquiétant.
Zizo détourna les yeux et observa les dernières ombres de la ville, au-delà des immenses poutres de fer du tipi. Ils se trouvaient tous les trois sur la plateforme du dernier étage, le plus petit, le plus haut, à près de 300 mètres au-dessus du sol, l'endroit le plus élevé de toute la ville. Il était rare de monter si haut. Seuls Akan et Mordelia s'y rendaient régulièrement. À travers la lueur des torches enflammées, Zizo repérait leurs matelas, les couvertures par terre, les fourrures accrochées aux barres de fer. Quand Akan et Mordelia convoquaient un garçon ou une fille du tipi au quatrième étage, ce n'était pas pour lui souhaiter son anniversaire, mais plutôt pour lui faire passer un mauvais quart d'heure, parce qu'il n'avait pas respecté les règles de la tribu, qu'il avait gaspillé des graines ou de l'eau, qu'il s'était éloigné des chemins de chasse, ou qu'il s'était approché des endroits interdits, le château ou le sanctuaire. « Joyeux anniversaire !» répéta Akan. Une nouvelle fois, Zizo s'étonna de ces deux mots. Akan n'était pas habitué à parler pour ne rien dire, et encore moins à répéter des phrases aussi stupides. De tous les enfants du tipi, Akan était le plus respecté, pas seulement parce qu'il était le plus grand et le plus fort. À 12 ans, Akan mesurait déjà 1m70 et dominait tous les autres garçons et filles d'une tête. Les enfants respectaient Akan, l'écoutaient, lui obéissaient et même acceptaient de se faire disputer par lui parce qu'il était calme, parce qu'il ne se mêlait jamais aux bagarres mais trouvait toujours des punitions justes, parce qu'il prenait toujours les bonnes décisions, parce qu'il savait être sévère quand il le fallait. Sans doute comme le faisaient les parents avant. C'est ce que pensait Zizo. Les parents devaient être ainsi, sévères et distants, tout en veillant sur eux. Puisqu'ils n'avaient plus de parents à qui obéir, ils obéissaient à Akan et à Mordelia parfois. C'est grâce à Akan s'ils avaient tous survécu, si les enfants du château restaient cachés sous terre, si le soleil de fer les protégeait et si aucun d'entre eux ne s'était fait dévorer par le loup Ponero. Akan avança sur la plateforme. Zizo admira la peau noire de leur chef, aussi fort et musclé que les silhouettes de pierre qu'on apercevait par les fenêtres du château. Akan n'était pourtant pas plus vieux qu'eux, s'amusa à penser Zizo, puisqu'ils avaient tous le même âge, strictement le même âge, au jour près. Ils étaient tous nés le même jour, aujourd'hui. Akan le fixait comme s'il attendait une réponse.
Merci, répondit Zizo. À toi aussi, Akan. Joyeux anniversaire. À toi aussi, fit-il en s'adressant à Mordelia. À tous les enfants du tipi. Désolé, je n'ai pas apporté de cadeau. Je ne voulais pas faire de jaloux.
Ils étaient une centaine d'enfants dans le tipi.
Mordelia sourit. Elle était petite, aussi petite que Akan était grand, et pâle, aussi pâle que la peau d'Akan était noire. Mais, comme pour lui ressembler, elle portait des habits très noirs, aussi noirs que ceux d'un corbeau, ou d'un autre oiseau plus noir encore. Il demanderait à Agnel si ça existait. Mordelia tenait dans ses mains sa longue vue. Difficile de croire qu'elle avait 12 ans comme eux, tellement elle paraissait sérieuse et mystérieuse. Chrysanthe aimait bien raconter que Mordelia était une sorcière qui s'était transformée en petite fille. Certains enfants du tipi la croyaient, mais certains enfants auraient cru n'importe quoi, à croire qu'ils avaient encore 6 ans. Mordelia jouait à agrandir et rétrécir la longue-vue entre ses mains. « Nous t'avons demandé de monter jusqu'au 4e étage pour une raison sérieuse, Zizomis, tu t'en doutes ?»«
Oui, pour qu'on l'appelle Zizomis, son prénom entier, ça devait être sérieux. Personne ne l'appelait jamais ainsi. »
Zizo baissa les yeux vers la ville noire. Il ignorait l'heure exacte, mais on approchait sans doute de minuit, car il entendait les enfants du tipi parler et rire au premier et au deuxième étage. D'ordinaire, à cette heure, tout le monde dormait. Toute cette agitation n'avait qu'une explication. Bientôt minuit, les 12 coups du birthday allaient être frappés. Il resta quelques secondes à écouter les cris joyeux aux étages inférieurs, puis leva les yeux vers les étoiles. La lune éclairait faiblement le ciel. À l'exact opposé, on apercevait le petit point rouge clignotant du soleil de fer. Avec Akan, poursuivit Mordelia, nous avons beaucoup discuté, hésité, et c'est toi, Zizomis, que nous avons choisi.
Moi ?
Zizo semblait sincèrement étonné et un peu inquiet, même s'il n'avait aucune idée de ce qu'on allait lui demander. Le choisir, lui ? Qu'avait-il de particulier ? Il n'était ni plus grand, ni plus rapide, ni plus malin, ni plus intelligent qu'un autre. Peut-être juste plus doué que les copains pour jouer à loup-pas-vu autour du tipi. D'ailleurs, ils y jouaient de moins en moins souvent. Pour se faufiler dans des trous de souris, pour retenir le nom des rues aussi, et le nom de tous les M, ceux sous lesquels se cachaient les enfants du château. Il était capable de reconstituer le plan entier des M dans sa tête, avec leur nom et leur place exacte dans la ville. Ça l'étonnait toujours que les autres ne puissent pas y arriver. Un peu comme Agnel était capable de reconnaître chaque oiseau, alors que lui les confondait tous depuis qu'il était né. Nous avons besoin de quelqu'un, expliqua Mordelia. Nous ne sommes plus en sécurité au tipi. Elle laissa passer un court silence avant de continuer. Nous sommes inquiets. Elle tint un instant sa longue vue ouverte, pointée dans le ciel vers le soleil de fer, comme si, grâce à elle, Mordelia pouvait observer au-delà des étoiles. Quelque chose est en train de changer, Zizomis. On ne le voit pas encore, mais je le sens. C'est dans l'air. La course des nuages n'est plus la même. Ni la caresse du vent, ni la brûlure du soleil, quelque chose se modifie. Nous ne pouvons pas attendre les grands froids de la veillée du sanctuaire. Nous devons nous préparer. Il nous faut être prêts. Il nous faut des informations.
Quelles informations ? Allait demander Zizo.
Il n'en eut pas le temps. Akan prit à son tour la parole. Tout de suite, Zizo préféra son discours. Akan ne prédisait pas les menaces dans la forme des nuages. Les menaces dont parlait leur chef étaient beaucoup plus réelles.
Mordelia a raison. Nous avons besoin d'informations. Tu seras notre espion.
Akan tourna son regard vers le grand fleuve, suivit sa courbe, délaissa le sanctuaire et s'arrêta sur les bâtiments carrés, tous éclairés du château.
Eux aussi grandissent, poursuivit Akan. Les enfants du château ne se contenteront pas toujours de vivre enfermés. Bientôt, ils voudront sortir, et pas seulement dans le sanctuaire. Peut-être demain, jusqu'au pied du tipi. Ils gagnent en force, en ruse. Nous devons savoir combien ils sont, à quoi ils jouent, ce qu'ils mangent, puisqu'ils ne chassent jamais, ce qu'ils font de leur journée, ce qu'ils...
Le premier coup de cloche de la tour du sanctuaire résonna dans la nuit. Dong. Zizo entendit la clameur aux étages du dessous. Les enfants du tipi criaient, chantaient, tapaient des mains. Dong, dong, dong. Près du fleuve, Zizo vit la pyramide du château d'un coup s'illuminer. Il aperçut de minuscules silhouettes aux fenêtres éclairées. Dong, 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 dong. Un brouhaha montait de là-bas aussi, alors que tout le reste de la ville restait noir et silencieux. Zizo se dit qu'il n'y avait pas besoin de s'approcher des enfants du château pour les espionner. Il suffisait de prendre la longue-vue de Mordelia
et de les compter. Don, don, don. Un silence ponctua l'avant-dernier coup de cloche. Les enfants retenaient leur souffle. Les lumières du birthday s'allumaient une fois par an depuis qu'ils étaient nés, mais leur mémoire ne remontait pas si loin. Ils ne gardaient le souvenir que des 5 ou 6 derniers anniversaires. Un spectacle dont ils se remplissaient les yeux pour se le rappeler ensuite tout le reste de l'année. Le plus merveilleux qu'ils aient jamais vu. Don. Le 12e coup annonçait le début du birthday. Une immense clameur remonta le long des 300 mètres du tipi, à en faire trembler les barres de fer, vibrer les peaux cousues entre les poutres. Tous les yeux se tournèrent vers le ciel, vers le petit point rouge clignotant. Presque aussitôt, le soleil de fer s'alluma. Il projeta des rayons verts, jaunes et bleus, qui se mirent à danser, tels des éclats de soleil soudain devenus visibles. Ils parurent éclairer la ville au hasard. Zizo était hypnotisé par le spectacle, comme tous les autres filles et garçons du tipi, comme Akan et Mordelia, tout chefs qu'ils étaient. Les flèches de lumière dessinaient des traits éphémères sur chaque bâtiment de la ville, suivaient les méandres du fleuve en sautant par-dessus chaque pont, et l'instant d'après, allaient dessiner des formes étranges sur les murs de l'église blanche sur la colline, puis partaient très loin, là où le fleuve disparaissait dans un dernier virage et où même Zizo n'était jamais allé. Les rues scintillaient sous le déluge d'un orage arc-en-ciel, sans pluie ni tonnerre, juste des milliers d'éclairs inoffensifs et magnifiques. Le spectacle durait 30 minutes. C'était ainsi chaque année, pas une minute de plus ni de moins. Un dernier rayon bleu dansa, chatouilla les monstres de pierre du sanctuaire, puis un dernier rayon rouge remonta sur la tour noire, la seule presque aussi haute que le tipi. Un dernier rayon vert se dirigea droit sur eux et, sous les cris des enfants à tous les étages, éclaira la flèche au-dessus de leur tête avant de repartir courir jusqu'au sommet de la place de l'aiguille, de suivre les allées des jardins du château, de traverser la pyramide, rebondir sur les façades de pierre blanche, franchir le fleuve pour retourner au sanctuaire et s'y arrêter. Le rayon rétrécit, puis rejoignit le soleil de fer qui resta vert un instant avant de redevenir rouge et de clignoter à nouveau, telle une étoile presque ordinaire. Des bruits, des rires retentirent au premier et au deuxième étage, saluant la fin du spectacle. La nuit du birthday ne faisait que commencer, la plus belle de toute l'année. Akan, qui avait assisté au spectacle sans un mot, recommença à parler, comme si le silence n'avait duré qu'une seconde. Il fixait la pyramide du château près du fleuve, sans regarder Zizo. « Tu partiras demain matin, » fit-il. « Tu devras t'approcher le plus près possible du château. Tu devras trouver s'il existe un moyen d'entrer. Tu ne devras pas prendre de risques. Tu devras revenir chaque soir, nous rapporter ce que tu as découvert, et repartir le plus tôt possible le lendemain matin. Demain ? Le plus tôt possible. Zizo avait prévu de jouer avec Agnel et Gulo à une partie de loup à vue dans la savane sous le tipi. Zizo savait qu'Akan et Mordelia ne participaient presque jamais à leur jeu, mais les autres enfants occupaient la plus grande partie de leur temps à s'amuser. Qu'y avait-il d'autre à faire toute la journée, à part jouer, une fois que l'on avait cueilli, chassé, qu'on s'était lavé et qu'on avait mangé? C'est important, Zizomis, ajouta Akan en se tenant juste à côté de Mordelia. « Nous comptons tous sur toi. » Quand Zizo redescendit au deuxième étage, il était presque 1 heure du matin. Aucun enfant ne dormait. C'était bien la seule nuit de l'année où personne n'était couché à 7 heures. La quarantaine d'enfants de son étage riaient en frappant des mains au son du tambour de Mouk et des flûtes de Caméliane. Il chantait la chanson du birthday en grignotant des noix, des noisettes et des graines de tournesol ramassées presque 1 an avant et conservées précieusement pour cette nuit, à l'exception de celles prélevées pour la grande battue. Gulo et Noam écrasaient des fraises et des framboises au fond de grandes bassines remplies d'eau
puis transvasait le liquide rouge d'une bassine à l'autre à travers un tamis recouvert de feuilles de menthe. Le soir du birthday, on buvait de l'eau sucrée. Le sirop coloré passait de lèvre en lèvre. Les bouches étaient rouges, les yeux pétillaient. Zizo se glissa directement sur son matelas de paille, sous son drap, et s'efforça de fermer les yeux. Agnelle s'approcha. Son matelas était collé au sien. C'était ainsi depuis qu'ils étaient en âge de se souvenir. Sans doute depuis qu'ils étaient nés.
« Ça va, Zizo ? Qu'est-ce qu'il te voulait au quatrième ?»«
Ça va. Je t'expliquerai demain. »«
T'es sûr ?» insista Agnelle.
« Oui, oui. Pourquoi ça n'irait pas ? Akane et Mordelia ne veulent que notre bien.
Faut que je dorme, Agnelle. Je dois me lever tôt demain. »
Debout sur la plateforme du quatrième étage, Akane scrutait la nuit. Mordelia s'approcha de lui.
« Tu crois que Zizomis est la bonne personne ?» demanda l'enfant géant. « Tu crois que nous avons bien fait de le choisir, juste parce qu'il est champion à loupe à vue ?»«
Il est trop tard pour regretter, » répondit la fille habillée de noir en se hissant sur la pointe des pieds. « Nous savons tous les deux pourquoi on l'envoie là-bas. Le piège qu'on lui tend. Lui ou un autre. » Est-ce important? S'il échoue, on enverra un nouvel espion le lendemain. C'est tout. On ne prend aucun risque.
Akane observait toujours le fleuve. Il se pencha un peu plus pour écouter les airs de flûte qui montaient le long des poutres de fer.
Si, lui, Zizo, en prend. Mordelia se retourna, cassante, comme si la musique l'exaspérait.
Des risques. Nous devrons bientôt tous en prendre.
Réveille-toi, Zizo. Réveille-toi.
Agnelle se tenait au-dessus du lit. Zizo écarquilla les yeux. Agnelle chuchota encore.
Réveille-toi. Je croyais que tu devais te lever tôt.
Tôt?
D'après la position du soleil, tout rouge entre les deux tours du sanctuaire, il ne devait pas être plus de 6 heures du matin. À l'étage, tous les enfants dormaient, épuisés par la trop courte nuit. Des feuilles, des fruits et des coquilles vides gisaient un peu partout par terre.
Allez, viens, Zizo!
Agnelle lui prit la main. Zizo se leva en titubant, incapable de résister à l'enthousiasme de son meilleur ami. Agnelle faisait partie des plus grands enfants du tipi, mais était de loin le plus maigre. Avec son visage fin, son nez pointu, ses cheveux ébouriffés et ses gestes toujours amples et élégants, il ressemblait à un grand oiseau, un échassier. Parfois, Zizo avait l'impression que son ami n'avait pas besoin de descendre les escaliers ou de se pendre aux cordes et aux filets pour sortir du tipi, qu'il pouvait simplement passer les barrières du deuxième étage et s'envoler. D'ailleurs, il s'approcha au plus près du vide. Le vent réveillait doucement Zizo. Le matin était doux.
Alors ?
Zizo lui raconta les ordres d'Akane et de Mordelia. Sa mission commençait dès ce matin. S'approcher du château. Il n'en savait guère plus. Agnelle resta longtemps silencieux, comme s'il hésitait à parler, à lui dire que c'était dangereux. Ils le savaient tous les deux. Zizo allait prononcer un mot pour rassurer son ami quand Agnelle serra sa main.
Regarde !
Il dirigea ses yeux à l'exact opposé du château. Vers la forêt.
Regarde, un roitelet.
Zizo suivit le vol de l'oiseau qui ressemblait à n'importe quel moineau.
Et regarde encore, là-bas, un rouge-gorge. Et là, près du toit, une mésange bleue.
Agnelle conservait sous son matelas un livre sur les oiseaux. Il l'avait lu des milliers de fois. Agnelle pouvait rester des heures à les observer. Il était capable de les reconnaître à des kilomètres. Il refusait qu'on les chasse. Il tolérait juste qu'on attrape les canards et les poules d'eau des lacs de la forêt, mais ne les mangeait jamais. Agnelle pouvait même entrer dans des colères terribles si des enfants du tipi montaient dans les arbres après le birthday, pendant la trêve, pour récupérer des œufs. Le regard d'Agnelle s'émerveillait à suivre la course de dizaines d'oiseaux dans le ciel, quand soudain, Une vieille grimace déforma son visage. Il fronça les sourcils, ce qui rendait encore plus long son nez en forme de bec. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» s'inquiéta Zizo. Il ne voyait rien d'autre que le calme et paisible vol des pigeons et des moineaux au-dessus des toits.
« Les oiseaux ne volent pas droit ?» ajouta Zizo pour essayer de faire sourire son ami.
Raté. Agnelle se retourna vers lui. Jamais il ne lui avait semblé aussi sérieux. Il le fixa dans les yeux.
« Toi aussi, tu as remarqué ?»
Une petite heure plus tard, les enfants du tipi étaient presque tous réveillés. Akane était descendu distribuer quelques ordres et répartir les tâches de la journée avant de remonter au quatrième étage. Il avait jeté un regard sévère sur les restes de la nuit de fête, sans formuler aucune critique. Après tout, songea Zizo, Akane avait exactement leur âge, il devait avoir les mêmes envies de s'amuser. Il devait être encore plus malheureux les jours de fête, de regarder les autres rire sans pouvoir y participer. Ou sans oser y participer. Qu'est-ce qui l'en empêchait? Akane pensait peut-être qu'on lui obéirait moins s'il venait faire avec les enfants une partie de loup à vue, de balle d'autruche ou de 1-2-3 soleil de fer. À 2 mètres de Zizo, une fille et un garçon, Cheyenne et Wayne, ramassaient un grand sac en roseau tressé. Tous les deux avaient peint leur corps de cendre noire et de teinture verte de feuilles macérées. On aurait dit des arbres qui auraient appris à marcher. C'était leur tour de chasser, et il y avait une bonne heure de marche avant d'atteindre la forêt. Quelques enfants s'étaient assis en rond, les lèvres encore rougies des boissons de la nuit, et avaient étalé une longue peau de cerf qu'ils cousaient à l'aide d'un fil de crin de poney. Plusieurs des tentures de cuir protégeant le tipi des intempéries entre le 2e et le 3e étage commençaient à se déchirer, et il fallait profiter des jours les plus beaux pour tout inspecter, puis réparer les fuites. Il valait mieux ne pas attendre le froid et la neige pour s'apercevoir que la tente était percée. Suzy, une fille aux cheveux frisés qui, d'habitude, ne cessait jamais de parler, soupirait ce matin en observant les tonneaux renversés, encore remplis de fruits écrasés. Zizo se souvenait que Suzy était de corvée d'eau aujourd'hui. Il pourrait l'aider à descendre les seaux jusqu'au fleuve, mais pas à les remonter. Il devait partir, maintenant. Il devait se concentrer. Comment s'approcher du château sans se faire repérer?
Où tu vas, Zizo?
Zizo se retourna. Il avait reconnu la voix de Chrysante, une des filles du tipi qui dormait au même étage que lui. Chrysante la collante, comme la surnommait Agnelle. « Je ne peux pas te le dire, Chris. » Chrysante serra fort sa poupée. Sa Lali chérie. Une poupée de paille avec 2 boutons bleus pour les yeux et un vieux torchon pour l'habiller.
« C'est Akane et Mordelia qui t'ont demandé ?»«
Je ne peux rien te dire. Désolé. » Chrysante lui tourna le dos, comme si ce n'était pas important, puis se pencha vers sa poupée pour lui chuchoter un secret. Sauf qu'elle parlait assez fort pour que tout l'étage l'entende.
« Tu vois, Lali, Zizo ne veut pas nous parler. Il fait son crâneur. Il se croit important parce qu'il a été invité au 4e étage. Alors maintenant, il ne nous connaît plus, toi et moi. »
Zizo haussa les épaules et prit son sac. Il observa les 2 chasseurs, Cheyenne et Wayne, qui ne prenaient pas la peine de descendre par les escaliers et se laissaient directement glisser par les lianes qui pendaient du 2e étage jusqu'à la savane sous le tipi. Wayne avait enfoncé sur ses cheveux roux un chapeau de cuir qui ne le quittait jamais, même pour dormir. Cheyenne, elle, serrait un petit poignard de silex qu'elle glissa sous sa veste à franges.
Dommage que ce petit prétentieux de Zizo ne nous écoute plus,
continuait de confier Chrysante à sa poupée.
Il devrait pourtant savoir qu'on a toujours raison, toutes les deux. Pas besoin de longue vue pour ça. On voit plus loin que cette vieille sorcière de Mordelia. Beaucoup plus loin. On voit ce qui se passera après.
Qu'est-ce qui se passera après?
Demanda Zizo, incapable de se taire plus longtemps. Occupé à déposer des graines de blé dans les mangeoires suspendues aux poutres du tipi, Agnelle soupira. Chrysante afficha un petit sourire en continuant de tourner le dos à Zizo comme si elle ne l'avait pas entendu.
Mais il ne nous écoutera pas, Lali. Le grand Zizo n'écoute pas Chrysante. Chrysante, le bébé. Chrysante qui joue encore à la poupée. Pas comme la belle Mordélia. Pas comme Lacan qui se prend pour un roi parce qu'il fait 20 centimètres de plus que nous. Qui se prend pour un adulte. Qui croit qu'il peut tous nous protéger. Ha ha ha! Nous ne sommes qu'une bande de petits sauvages qui allons tous bientôt finir dévorés. Sauve-toi, Lali.
Tu m'énerves, Chris.
Zizo se mit en route. Il descendit les premières marches de l'escalier de fer. Il devait penser à sa mission, uniquement à sa mission, trouver un moyen de s'approcher du château. Il entendit Chrysante prononcer les derniers mots à sa poupée. Sa voix s'était un peu cassée. On devinait qu'elle se retenait de pleurer.
« Dis au revoir à Zizo, Lali. »
La poupée agita son bras de paille.
« Dis-lui au revoir, »
continua Chrysante.
« Parce que, malgré ce qu'il croit, il ne reviendra pas ce soir. »
Agnelle ne put contrôler un mouvement de surprise. Les graines qu'il versait tombèrent en pluie du troisième étage du tipi. Chrysante conclut, les yeux embués de larmes, mais parvint à sourire à sa poupée.
« Je crois même qu'il ne reviendra jamais. »